C'est vrai que c'est des personnes qui arrivent à livrer ce qu'ils ont promis et c'est peut-être à ce niveau-là que c'est ennuyeux par rapport à d'autres sociétés qui étonnent positivement ou dans le cas du domaine de l'alimentation et de la saison de résultats de ce trimestre qui vient de passer qui déçoivent au fait avec le résultat. Et là, je pense par exemple à Unilever et à Danone.
Avec en moyenne 5% de croissance annuelle, le modèle Nestlé semble imperturbable. Crise ou pas crise d'ailleurs, la multinationale fait toujours mieux que ses concurrents. Comment on l'explique ?
Alors certainement c'est lié à leur management et certainement c'est justement lié à cette régularité qui est peut-être ennuyeuse car ça ne crée pas une histoire intéressante autour de Nestlé, mais c'est exactement ce qu'un investisseur peut se réjouir car Nestlé ne joue pas avec son modèle, ne change pas sa stratégie pour garder ou augmenter ses volumes à court terme ou augmenter ses prix à court terme, mais a toujours un équilibre très bon entre la croissance de ses revenus et la profitabilité qui est dégagée par ses revenus. Et c'est ça qu'on peut applaudir dans ses résultats aujourd'hui qui livrent le modèle Nestlé, ni plus ni moins, donc pas de surprise, mais qui ont cette régularité qui fait que Nestlé reste devant ses concurrents en termes de résultats financiers et en termes de taille de société.
La croissance du groupe au premier semestre a été portée par la forte reprise dans les marchés émergents. On sait que Nestlé a un énorme trésor de guerre à ce niveau-là. C'est là qu'il faut regarder pour les futures acquisitions.
C'est certainement ce que le groupe nous fait croire, c'est certainement ce que le groupe nous dit lorsqu'ils disent qu'ils regardent effectivement les marchés émergents pour des possibilités de fusion et acquisition. Mais ceci dit, il est vrai que cette année, les acquisitions qu'ils ont faites ont plutôt été dans le monde développé. Je pense notamment aux activités de pizza congelée de Kraft qu'ils ont acheté en début d'année. Donc le problème, c'est plutôt de trouver un candidat à acquérir que de trouver quelque chose qui pourrait les plaire. Et là, Nestlé a toujours fait preuve d'une très bonne discipline en termes de prix d'acquisition. Et c'est peut-être ça qui retient leurs ardeurs. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que lorsque Nestlé acquiert quelque chose ou annonce une acquisition au grand public, c'est également une acquisition qui doit changer la donne pour eux. Et lorsqu'on pèse déjà plus de 100 milliards de francs suisses en revenus, il est difficile de trouver une boîte, notamment dans des pays émergents, qui pourrait changer l'apparence de Nestlé.
Enfin, pour le reste de l'année, la fin de l'année, Nestlé table sur des conditions plus difficiles cette fois. Quel pourrait être l'impact, par exemple, d'une possible hausse des matières premières ?
Alors, les matières premières sont toujours achetées à l'avance, donc hedgées par Nestlé pour la majorité des matières premières importantes et où c'est possible de le faire. Donc, c'est clair que ce premier semestre que nous venons de traverser a bénéficié de la baisse des matières premières en fin 2009. Et ça s'est vraiment ressenti cette année. Cet effet sera peut-être moins évident au deuxième semestre de cette année et nous sommes dans un environnement où certains produits de matières premières sont à la hausse. Mais il faut garder ça en contexte, notamment le blé par exemple qui a fortement augmenté récemment n'est pas une matière première essentielle pour Nestlé. La plus grande matière première pour Nestlé étant le lait. Et c'est donc plutôt sur les matières premières qui sont importantes pour chaque société qu'il faut regarder que les matières premières en général.